Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Micro Rebelle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans nos studios deux invités. Daniel, qui est ouvrier à Renault et militant à l'UCL, ainsi que Fanny, qui est également militante à l'UCL. Bonjour à tous les deux et à toutes les deux, et merci d'être là. Bonjour.
Merci.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est que cette organisation de l'UCL ?
Alors, l'UCL, c'est l'Union communiste et libertaire. C'est une organisation politique communiste et libertaire qui existe depuis 2009 suite à la fusion de Alternative Libertaire et la CGA, oui. Et voilà, en fait, moi je suis dans l'organisation depuis pas mal d'années, notamment dans le groupe de Douai et parfois présent sur l'île.
Alors, vous avez un magazine. Est-ce que vous pouvez nous en parler et un peu nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne, entre autres ?
Alors, on a un mensuel qui s'appelle Alternative Libertaire, qu'on peut trouver dans les kiosques. On peut aussi s'abonner en ligne.
Est-ce que, peut-être, en quelques mots, brosser les thématiques que votre organisation et que votre journal abordent, ce qui est un peu vos points d'intérêt ?
Alors, nous luttons beaucoup pour l'anticapitalisme. L'antipatriarcat, pour l'écologie et tous ces sujets en fait dont le capitalisme touche en fait.
Et je dirais qu'il y a une particularité quand même à l'UCL, hein, c'est quand même le sens du mot libertaire, c'est le fait qu'on est vraiment dans une perspective qui est anti-hiérarchique et qui est vraiment d'autogestion. Et c'est en grande partie quand même ce qui nous distingue de la gauche anticapitaliste de style marxiste-léniniste.
Et alors j'imagine que du coup dans cette organisation, toutes les questions relatives au travail et à son organisation vous intéressent. On va en parler aujourd'hui dans cette émission puisqu'on va partir d'une actualité qui concerne ton travail, Daniel. Donc toi, tu es ouvrier à l'usine Renault. Est-ce que tu peux un peu nous dire c'est quoi cette usine ? Voilà, j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs sites. Qu'est-ce qu'on y fabrique ? Combien de personnes travaillent ? Comment l'organisation s'opère ?
Alors déjà, c'est une usine en fait qui a apparu, qui a été faite dans les années 70 suite à la fermeture des mines de charbon pour pallier au chômage. Il y a eu un pic de personnel, de personnes en tant que salariés de 8 000-8 500 personnes. Et actuellement, nous sommes entre 2 700 et 2 800 salariés.
Et alors, qu'est-ce que vous fabriquez ? Comment ça se passe ?
Donc actuellement, nous fabriquons des véhicules type Scénic, Talisman, Espace. Ce sont des véhicules thermiques en fait qui vont prendre fin d'ici l'année prochaine au plus tard 2022 pour être remplacés par des véhicules électriques dont il faut 30% de personnel en moins en fait. Et je trouve ça que c'est assez problématique, ça peut augmenter le nombre de chômeurs.
Alors justement, ce dont tu parles, c'est un sujet qui est d'actualité, hein. On en entend parler dans la presse nationale autant que locale, hein. Et effectivement, les sons de cloche sont plutôt unanimement pour dire que c'est une bonne nouvelle, et avec comme argument l'idée qu'il y aurait justement de la création d'emplois. Alors par exemple, la Voix du Nord nous parle de 700 CDI à la clé, le Figaro va jusqu'à dire qu'il y aurait 2000 emplois créés. Tu parles, toi, du risque, au contraire, qu'il y ait des pertes d'emplois. Est-ce que tu peux nous parler de ces infos qui semblent contradictoires ?
Alors déjà, il y a deux choses. C'est que les 2000 emplois, en fait, ça concernerait l'usine de batterie par un groupe chinois. Mais c'est un nombre de salariés, d'embauches, qui pourrait être atteint si le marché automobile est en faveur du groupe Renault, et notamment des véhicules qui seront fabriqués à Douai. Et pour le chiffre de 700 embauches, là c'est interne à Renault, mais ça concerne pas que le site de Douai, ni le site de Maubeuge, ça concerne le site de Douai et le site d'Orbitz en fait. Donc ces 700 personnes vont être partagées entre les deux sites.
Et alors du coup, pourquoi d'après toi, il y a ces promesses d'embauche alors que tu penses qu'il y a moins besoin de personnel pour une fabrication électrique ?
Déjà, premièrement, pour un véhicule électrique, il y a pas mal d'organes du véhicule dont il n'y a pas besoin en fait pour un véhicule électrique, comme les échappements, les moteurs thermiques, tout ce qui va autour du moteur aussi. Donc forcément, ça va amener à avoir moins de personnel pour mon, et ce qui fait que ça risque de faire une baisse significative, enfin d'avoir pas forcément le nombre d'embauches dont on veut nous faire croire.
Donc c'est une sorte d'effet d'annonce, c'est ça, ou c'est même pas sûr que ça atteindra 700 dès le départ ?
Ça sera pas dès le départ, ça sera progressivement. Et c'est un effet d'annonce, mais s'ils arrivent à leurs objectifs, si la direction arrive à ses objectifs.
Alors peut-être pour resituer, dire que donc Renault, c'est actuellement 3 sites, tu me dis si je me trompe. Hein.
Pour, pour le pôle Nord, Renault Electricity.
Ouais, c'est ça, ok, parce qu'après il y a d'autres sites Renault ailleurs. Oui. Donc c'est ça, c'est un pôle qu'ils appellent Electricity, qui regrouperait donc 3 sites, Maubeuge, Doue et Ruitz, mais qui géographiquement resterait sur ces 3 villes. Et alors du coup, est-ce que tu peux venir sur quand ça se mettra en place, c'est quoi les conséquences pour les ouvriers et les ouvrières en termes de conditions de travail, d'emploi du temps, de déplacement, d'heures, ce genre de choses?
Donc en fait, ça a donné lieu à un accord en fait, qui a été signé entre la direction et l'intersyndicale CFDT, FO, CGT et Sud, qu'ils ont aussi également signé cet accord. Un accord qui comporte ce qu'on appelle un overtime, donc un dépassement d'horaires obligatoires au gré de la direction et au gré des besoins de la direction.
Et donc ça veut dire des semaines avec des horaires beaucoup plus chargés, obligatoires, où les travailleurs et travailleuses n'auraient pas forcément leur mot à dire, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc aucun mot à dire, dépassement de temps de travail. Donc pour les personnes qui ont des enfants ou des familles ou d'autres obligations, en fait, la direction s'en contrefou.
Alors vous, justement, à ce sujet, au niveau de l'UCL, vous avez rédigé un communiqué pour essayer d'éclaircir et de remettre au clair justement un peu tous ces points-là, puisqu'on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de contre-médias ou de contre-annonces par rapport à ce projet qui semble assez génial hein, dans les médias. Un des premiers risques dont vous parlez, c'est la question de flexibilité. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus, ce que ça veut dire ?
La flexibilité, ça englobe pas mal de choses. Ça peut être aussi l'overtime, ça peut être aussi des déplacements entre sites. On peut nous demander d'être muté en fait. On nous dit que ça serait au volontariat. Le volontariat chez Renault, parfois, c'est nous pousser justement à être mobilisés sur d'autres sites. C'est un peu comme les heures supplémentaires au volontariat, ou à une époque, ce qu'ils faisaient avec les intérimaires, c'est qu'on disait « bon, t'es pas obligé de venir le samedi, mais n'oublie pas, t'as un contrat, donc ça obligeait les personnes justement à venir bosser ». Donc je pense qu'ils vont utiliser un petit peu ce type d'argument ou de...
Faire croire qu'on a le choix alors qu'en fait on n'a pas le choix, c'est une obligation détournée, parce que derrière il y a un peu du chantage sur...
Il y a toujours un petit peu de chantage, oui.
Il y a aussi dans votre communiqué... L'idée que le fait de créer donc ce pôle Electricity, ça permettrait une renégociation des grilles de salaire, d'avancement et des acquis sociaux. Alors bon, moi, j'y connais pas grand-chose en termes de grille de salaire, d'avancement, tout ça. C'est pas un truc que je maîtrise. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus?
Moi, c'est pareil, niveau grille de salaire, c'est pas trop quelque chose que je connais très, très, très bien non plus, mais je sais que les salariés en fait, de Renault Rouitz, Renault Douai, Renault Maubeuge vont passer de Renault SAS à Renault Electricity, qui serait apparemment une filiale. Donc, qui dit filiale dit que les contrats de travail vont forcément muter. Donc, beaucoup de questions se posent. Est-ce que on va garder les mêmes droits? Est-ce qu'on va perdre des acquis? Donc, toutes ces questions-là se posent et elles se trouvent sans réponse, ni même de la part d'un quelconque syndicat de l'intersyndicale.
Et alors justement, à ce sujet, c'est quoi un peu les relations entre les personnes sur le terrain, les ouvriers et ouvrières, et puis ces syndicats qui ont pris cette décision de signer unanimement cet accord? Est-ce qu'il y a eu une concertation en amont? Est-ce que c'est quoi le son de cloche aujourd'hui, maintenant que l'accord est signé? Est-ce que les gens sur le terrain, ils sont satisfaits de ça?
Non, pour l'instant, il n'y a personne qui est satisfait. On sait très bien que quand on va nous appeler à faire du temps de travail supplémentaire, on va devoir le faire. Et beaucoup de monde chez les salariés ne sont pas vraiment pour. On n'est pas vraiment d'accord. Les syndicats ont contacté des salariés à droite à gauche, oralement en fait. Moi je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pour justement au minimum en parler, expliquer certains points. Mais non, non, rien, rien. Et je pense que déjà il y a un problème de démocratie syndicale à ce niveau-là. Je pense qu'un accord aussi important. Ça aurait été normal de faire une assemblée générale. Surtout que bon, on avait pas mal de journées de chômage, ça aurait pu se faire hors temps de travail pendant les journées de chômage. Il y a des gens qui seraient venus pour justement dire ce qu'ils pensaient de cet accord.
Et alors, maintenant que cet accord est signé, c'est quoi un peu la suite au niveau de vous, les travailleurs, les travailleuses, et votre justement quel rapport de force vous pouvez avoir? Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre, notamment par rapport aussi au syndicat? Qu'est-ce qu'il est possible maintenant que l'accord est signé?
Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 15 ou 16 mois de négociations entre les organisations syndicales et la direction sur tous les points des trois sites, en fait, sur tous les acquis, sur... Après, bon, faut savoir que la direction, elle va forcément faire en sorte que ça aille dans son sens pour qu'elle soit le moins perdante possible et que les travailleurs et travailleuses soient en perdent beaucoup plus.
Parler de la question de l'emploi, c'est-à-dire que c'est l'argument qui est mis en avant, la création d'emplois. J'ai l'impression qu'il y a aussi un autre argument qui est mis en avant pour promouvoir ce genre de projet, c'est la question du moteur électrique, qui aujourd'hui est vraiment brandi comme l'étendard de l'écologie suprême, quoi, on va dire. Alors déjà, premièrement, tu disais hein, tout à l'heure que techniquement, en fait, pour construire une voiture électrique, il y a besoin de moins de personnes. Donc c'est vrai que ça... On se questionne sur du coup cette équation qui semble un peu contradictoire.
Les organisations syndicales en fait parlaient à une époque d'à peu près 30% de personnel en moins. Et certains chiffres disent 50% de personnel en moins, mais ça c'est dans le monde automobile en fait complet, que ce soit les concessions, les garages, les usines qui fabriquent ces modèles. Donc 50%, ça engloberait le tout, mais il y aurait à peu près 30% de personnel en moins. Et beaucoup de personnes en poste dans les usines qui sont sur des postes thermiques se posent la question de savoir ce qu'ils vont devenir.
Ouais, donc il y a une réelle crainte dès maintenant sur...
Une crainte de perte d'emploi. Ouais, malgré cet accord, il y a quand même une crainte de perte d'emploi. Bon. Pour l'instant, on n'a pas de réponse ni de la part de la direction. On nous a rien dit directement, ni les organisations syndicales. Après, je ne sais pas s'ils ont plus d'infos à ce sujet-là.
Alors justement, vous, en tant que militante et militant... qui prenait justement peut-être une vision du monde notamment écologique et des rapports voilà, sociaux entre les gens particuliers. On nous vend ça comme une sorte de, voilà, de progrès environnemental. Bon, il faut quand même rappeler que les composants d'un moteur électrique aujourd'hui se trouvent dans des mines, dans des pays lointains, avec des personnes surexploitées pour pouvoir les extraire.
Parfois même des enfants.
Voilà, exactement. Est-ce que voilà, vous pouvez donner un peu votre point de vue sur cet argument qui est donné d'un monde plus vert, entre guillemets, grâce à la voiture électrique?
Bah, plus vert, je pense pas, non. Je pense qu'on change de pollution, qu'on déplace justement aussi la pollution et que les moyens de polluer ils changent. Donc au lieu d'aller chercher du pétrole, on va chercher des minerais. Ensuite, au mieux que ce soit du charbon, bah, ça va être des minerais aussi. Quoi. Pour alimenter tout ça, il faut aussi de l'électricité. L'électricité, pour pouvoir alimenter un parc automobile de plusieurs millions de véhicules, je pense que si, ça va être du nucléaire, quoi, avec les déchets et tout ce qui s'ensuit.
Moi, ce qui m'apparaît également par rapport à ça, c'est que c'est la multiple hypocrisie en fait de la direction de Renault et également des politiques qui lui déroulent un tapis rouge. Alors, je parle évidemment sous le contrôle de Daniel et tu m'interromps si tu penses que je dis une bêtise, mais la première chose, c'est que Daniel vient de rappeler que avant tout, l'électrique par rapport au thermique, c'est hyper rentable parce que ça coûte moins cher à produire. Et donc, évidemment que l'argument écologique n'est jamais qu'un argument parce que ça permet un peu d'avoir l'air sympa, etc. Et qu'en réalité, il s'agit avant tout de faire des économies pour les patrons. Donc ça, je pense que c'est quand même une première chose importante. Une autre chose, c'est qu'effectivement, actuellement, sous couvert de se poser des questions d'écologie, y compris dans certains mouvements de gauche, on ne se pose plus du tout la question de la façon dont les gens vivent. Et je pense que c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être végétarien pour se poser des questions en termes de remise en question de la société et du système dans lequel on vit actuellement. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important.
Tu veux dire le fait qu'on rende individuelles les luttes ?
Alors, à la fois, effectivement, ça devient des luttes extrêmement individuelles qui, en gros, sont ce que je mets dans mon assiette ou, effectivement, des choses où on se pose la question en termes, de jeu d'individu, effectivement. Mais c'est aussi le fait que ça n'est pas parce que je ne bouffe pas de poisson ou de viande que, pour autant, je me pose la question de savoir comment les gens qui même font pousser des légumes, vivent au quotidien et dans quelles conditions de travail ils se trouvent. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est quand même relativement absent des débats politiques actuellement, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris la place. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'entend plus tellement les luttes sociales, même si elles existent, hein, mais il y en a vraiment d'autres qui ont pu prendre la place ces derniers temps, du moins dans la plupart des médias. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Après, sur nous, le modèle de société qu'on porte, ce qui est évident aussi, Daniel l'a rappelé, c'est que ça a été une décision qui a été prise de façon totalement verticale, que ce soit par la direction de Renault ou par les délégués syndicaux, qui, estiment qu'être élu leur donne des droits au lieu de leur donner des devoirs. Et là, c'est une vraie question qui se pose, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas eu d'AG. À un moment où, effectivement, en plus, malheureusement, beaucoup d'ouvriers étaient disponibles pour des AG. Et ça aussi, c'est une vraie question, parce que l'écologie, que ça passe d'ailleurs par le thermique ou par autre chose, C'est très intéressant, mais là encore, à partir du moment où c'est l'ensemble de la population qui participe aux prises de décision. Et je ne pense certainement pas qu'un combat, quel qu'il soit, puisse être pris, puisse être décidé du haut vers le bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important.
Ouais.
Parce qu'on peut imaginer que s'il y avait une concertation beaucoup plus horizontale dont tu parles,
démocratique, ouais.
Démocratique, les intérêts des grands patrons n'auraient pas pu être représentés comme ils le souhaitaient. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles finalement, comme tu le disais, les gens ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'ils vont y perdre. Donc finalement, ils savaient peut-être d'avance qu'en vous conviant à une AG et en discutant horizontalement, cet accord, finalement, il ne serait jamais passé.
Voilà.
Alors, je me demandais aussi, est-ce que ce serait pour vous, sur le terrain, donc j'imagine que c'est un travail, c'est sous forme de chaîne que ça se passe, vous êtes par secteur, c'est ça, c'est les véhicules qui passent devant vous et vous intervenez dessus, enfin, je ne me rends pas trop compte de comment
oui,
ça...
Oui, en fait, c'est une chaîne de production, en fait, il y a un véhicule qui va passer, et en fonction des pièces qu'on a montées, on a une feuille d'opération standard, qui nous dicte comment on doit travailler, parce que, attention, parce qu'on nous dicte aussi la façon comment on va mettre un boulon ou combien de tours de boulon on doit faire avant de serrer. Donc on a des feuilles en fait qui nous disent comment monter telle pièce ou telle pièce. Chaque en fait opérateur et opératrice ont une pièce à monter de telle ou telle façon.
Et alors justement avec ce changement donc de pièces. Hein, si on passe du thermique à l'électrique, est-ce que pour vous ça va nécessiter une formation? Est-ce que ça s'est pris en compte aussi? Est-ce que voilà, comment c'est réfléchi? Ou alors pour le moment vous avez vraiment aucune info
Des formations, il y a des formations électriques, mais il faut savoir aussi que il y a beaucoup moins d'opérations, donc il va y avoir des opérateurs ou des opératrices avec beaucoup moins d'opérations à leur poste de travail. Qui dit moins d'opérations par opérateur ou opératrice, dit manque à gagner pour le patronat, pour la direction. Donc forcément, ils vont prendre le boulot d'une autre personne et le dispatcher un peu à droite à gauche à des opérateurs ou aux opératrices pour qu'ils aient un temps de travail complet, en fait, qui monte des pièces à 100%. Ce qui fait que ça va réduire aussi le nombre de personnel disponible. Mmh. Ces gens-là, on ne sait pas.
D'accord. Alors, je rappelle aussi que donc là, tout ce dont on est en train de parler, ça se trouve dans un communiqué dont je parlais tout à l'heure que vous avez rédigé. Qui se trouve où, ce communiqué? Si on veut le lire en entier, si on veut s'informer, où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, on peut le trouver sur le site fédéral de l'Union communiste libertaire. On peut aussi le trouver sur les réseaux sociaux comme le Facebook de l'Union communiste libertaire d'où est Lille, et notamment sur le Twitter aussi, du même nom.
Alors pour moi, c'est bon pour mes questions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez d'autres points à soulever par rapport à ce projet qui va voir le jour assez rapidement, j'ai l'impression?
Disons que moi, j'espère que les organisations syndicales vont prendre un peu conscience qu'il faut faire vivre la démocratie syndicale, déjà en un premier lieu. Et que on risque d'avoir des luttes à avoir pour garder certains acquis, parce qu'il va y avoir des négociations. Mais maintenant que les organisations syndicales ont signé cet accord, est-ce qu'ils vont appeler à défendre contre ce qu'ils ont signé? C'est là qu'est la question.
La question, c'est vraiment la combativité de chacun et de chacune, parce que c'est ce qui peut permettre de faire reculer à la fois la direction et les organisations syndicales. Après, peut-être une petite parenthèse sur sur les annonces de création d'emplois, parce que je ne sais pas si on a été très clair là-dessus tout à l'heure, mais est-ce que je pense qu'il y a quelque chose d'important, parce que c'est ce qui se fait dans plein d'autres domaines. Moi, je viens de l'enseignement et c'est aussi la chose qu'on fait à chaque fois. On brandit des ouvertures de postes et puis en même temps, plus personne ne veut devenir prof. Et c'est exactement là aussi la question qui peut se poser, c'est qu'on peut dire qu'on ouvre des postes, mais si les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, et c'est sans doute ce qui va se passer, de toute façon, tout le monde va partir. Donc on peut afficher d'ouvrir des postes, afficher d'ouvrir des contrats, mais si véritablement les gens partent, de toute façon, ça fera moins de salariés, et je pense que c'est là aussi qu'il y a une forme d'hypocrisie et une forme de contradiction, en fait, dans les termes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à voir. Et c'est aussi ce qui peut expliquer qu'on craint que le nouveau pôle soit, sur le plan social, beaucoup moins favorable aux employés, parce que du coup, ça sera des gens qui seront sans doute beaucoup plus jeunes, qui auront moins d'expérience, donc qui à la fois arriveront sans le salaire qui vient avec l'expérience, mais aussi avec de plus grandes difficultés à pouvoir négocier un contrat de travail convenable. Et je pense que voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire attention.
À savoir aussi que le personnel qui pourrait être amené à être embauché rentrera déjà dans en première Renault Electricity, avec les futurs accords qui vont être négociés, donc aussi les contrats de travail qui vont être négociés. Mais ils vont rentrer déjà en un premier temps avec un CDD. Ce qui fait qu'on va leur pendre l'embauche au-dessus de la tête en disant tu vas attraper l'embauche. Il faut que tu cours sur chaîne, il faut que tu fasses ton maximum, il faut que tu fasses moi ce que j'appelle ce larbinazine. Ah, de dire un larbin, quoi, en fait. Dire oui à tout. Dans l'optique de pouvoir décrocher une embauche, parce que c'est très difficile d'obtenir une embauche dans la région. Donc je pense que la direction va beaucoup jouer là-dessus, pour pouvoir flexibiliser les nouveaux arrivants. Et ils ne seront pas forcément embauchés non plus, parce que ça dépend du... Comme je l'ai dit tout à l'heure, selon le marché automobile. Et pour l'instant, dans mon entourage, déjà très peu de gens sont... Pour le fait d'acheter un véhicule électrique à 45 000 euros, comme l'annonce la presse. Donc je trouve que la clientèle va être difficile à trouver pour la direction et les chiffres ne seront pas forcément là. Et à savoir aussi que progressivement, ils vont arrêter les véhicules thermiques. Et il risque aussi d'avoir une inflation du prix du pétrole, ce qui va jouer beaucoup sur
les personnes qui ont un véhicule.
Voilà, les personnes qui sont au chômage, qui ont un petit véhicule, un vieux véhicule, ils n'ont pas le choix. Ils ont un vieux véhicule qui pollue, ils n'ont pas des véhicules récents, donc ça...
Ah oui, ça coûte cher.
Ça va beaucoup jouer là-dessus.
Est-ce que vous dites sur les conditions de travail? De toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tellement de secteurs. Et puis, depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'on se rend bien compte que le capitalisme, où sont les intérêts, bah, c'est de toujours faire des marges. Alors que je pense que le patron de Renault, tout comme le patron de plein de grandes marques de voitures ou autres, n'est pas très malheureux, hein, au niveau financier. Je sais pas quels sont les chiffres, mais j'entendais dire que voilà, au niveau de notamment la vente de sa Zoé ou ce genre de choses, ça avait quand même vraiment bien marché pour lui. Donc là-dessus...
Bon, apparemment, ils ont été détrônés par Tesla, apparemment. D'accord, il y a peu de temps.
Bon, c'est la concurrence entre les capitalistes. Mais ce dont tu parlais, Daniel, on le retrouve aussi dans des sites comme Amazon, des sites comme où tu as vraiment ce chantage, en fait, si tu veux. Bon, là, en plus, c'est avec beaucoup d'intérimaires. Donc, c'est vrai que le milieu de l'intérim, c'est aussi quelque chose, quoi, pour le coup, encore plus flexible. Mais c'est vers ça qu'on tend, quoi. J'ai l'impression, ce système très libéral où, en fait, effectivement, on n'est plus qu'un mouchoir et puis qu'on peut jeter. Et puis qu'en fait, c'est à nous, limite, de dire merci et de dire pardon, quoi.
Oui, c'est ça, c'est la flexibilité. Hein. Pour connaître quelqu'un qui travaille chez Amazon syndicalement, c'est très flexible là-bas et ça se rapproche un petit peu de tout ça, oui.
Très bien, bah merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour la fin ou si c'est bon. Donc je rappelle que notre sujet, hein, de cette discussion, c'était donc le projet de fusion du pôle nord de Renault qui s'appelle Electricity, donc Maubeuge, Douai, Ruitz, pour la fabrication de voitures électriques qui engendraient en fait pas mal de casse des droits du travail pour les travailleurs et travailleuses qu'on peut retrouver donc dans votre communiqué. Hein, donc merci Fanny et merci Daniel, donc militante et militant à l'UCL, et Daniel ouvrier à Renault. Donc votre communiqué, je le redis, hein, qui se trouve sur votre site internet Union Communiste Libertaire. Merci.
Merci.
Merci.